Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Red Alert, l'hebdo actu jeu vidéo de l'équipe de Sœur d'édition. Et l'équipe de Sœur d'édition, c'est en partie Nicolas Coursier. Nico, comment vas-tu?
Bonjour à tous, bonjour Médé Canafi, ça va bien et toi?
Ça va plutôt pas mal, très content, grosse émission aujourd'hui.
Grosse émission, gros programme.
Grosse exclu. Attention, hein, parce que au programme de ce Red Alert, hein, on va d'abord nous pencher sur le remake de Resident Evil 4, un jeu qui sera disponible le 24 mars, mais soyez sans crainte, hein, la critique à venir sera 100% sans spoiler. Puis dans la seconde partie de l'émission, nous allons parler du jeu vidéo japonais, un jeu vidéo qui est en pleine forme, en pleine vigueur. Voilà, on va regarder un petit peu qu'est-ce qui va se passer en 2023 côté Nippon. Vous retrouverez bien entendu l'interlude top 3, mais avant c'est la rubrique retour sur l'émission. Ben rien du tout, je crois qu'on n'a pas de retour sur, il s'est rien passé.
Voilà, on a été tellement complet qu'il n'y a plus rien à dire.
Il n'y a plus rien à dire, le jeu vidéo est résumé. J'en avais peut-être un petit retour sur l'émission 86, hein, dans laquelle je parlais de Mario et Lapin Crétin Sparks of Hope, hein, oui. Mon GOTY de l'année dernière. J'ai rapidement lancé le DLC, le premier DLC de la vague sur 3 DLC à venir, qui s'appelle la Tour Maudite. Et donc voilà, quand vous le lancez, c'est une campagne à côté, c'est pas du tout ce que j'imaginais, je pensais que ça allait être du endgame, c'est pas le cas.
Bon, c'est plus pratique peut-être.
Franchement, hein. Je suis trop content de replonger là-dedans. Alors ils ont aussi, en plus de cette de ce DLC qui est exclusif au Season Pass, donc il faut le savoir.
Ah ouais.
Il y a une démo qui est disponible de 2 heures, donc si vous avez pas fait le jeu, n'hésitez pas à l'essayer, c'est l'occasion.
Ouais, parce qu'il en a un petit peu besoin a priori, hein, les ventes ont pas été à la hauteur et c'est cool que toi tu le soutiennes autant et dès que tu peux en reparler, hein.
Mais je ferai sûrement un retour sur du retour sur
au moins le DLC de Rayman
c'est le troisième, lui c'est le troisième, lui sera fin d'année. Alors lui c'est certain, peut-être ce sera une chronique même entière.
Oh là là.
Est-ce que tu es motivé et chaud pour qu'on parle de RE4 Remake?
Tout à fait.
Parce qu'on a eu la chance de jouer et terminer tous les deux RE4 Remake. Alors, je dis RE4 Remake, hein, mais je sais pas si vous avez remarqué, mais ce jeu, en réalité, il s'appelle pas Resident Evil 4 Remake. C'est juste Resident Evil 4. Alors, c'était aussi le cas pour le remake de l'épisode 2 et 3, mais contrairement à ces deux jeux, l'absence du mot remake n'aura jamais eu autant de sens avec ce quatrième épisode. Alors, contrairement à la semaine dernière, je vais pas faire ça tout le temps, je vais pas vous donner ma conclusion dans l'intro. Faudra donc rester jusqu'à la fin de la chronique pour comprendre pourquoi je dis ça.
Je suis dégueu.
Oui, voilà, je voulais direct savoir. Alors, on remarque que Capcom, elle est sur une bonne lancée avec ses remakes. Hein. Celui de RE2 a reçu un accueil critique qui est unanimement bon, il s'est très bien vendu, avec plus de 11 millions de copies écoulées, c'est le quatrième jeu le plus vendu all-time de l'éditeur, il talonne même RE7, il va peut-être même, j'imagine, le dépasser avec l'engouement que va générer la sortie de RE4 Remake. Il va donc peut-être même passer troisième jeu le plus vendu de chez Capcom, et donc il deviendrait le premier Resident Evil le plus vendu de Capcom, ça serait un remake, en sachant que les deux premières positions chez l'éditeur sont Monster Hunter World et Monster Hunter Rise, en sachant que Rise est à 11,7 millions de ventes, comme RE7, donc est-ce que RE2 Remake ne passerait pas premier Resident Evil du top et même second du classement?
Ça serait, je sais pas, ouais, parce que Rise, il est en pleine bourre, il vient de ressortir sur les, enfin, il vient de sortir sur Xbox et PS5, donc.
RE2 Remake se place très 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 bien. Le remake du 3 a été moins apprécié. Bon, moi je l'aime bien, mais bon. Il s'est quand même moins vendu. Néanmoins, 6,5 millions, c'est énorme. C'est le 11e jeu le plus vendu de Capcom. Il faut savoir que c'est plus que Street Fighter 2. Hein. Donc, on peut dire, je pense, que c'est quand même un gros succès.
Et c'est cool, Capcom. Ils ont un système où ils mettent à jour leur liste de jeux vendus et tout. Enfin, c'est super, voilà. Pointu. C'est mis à jour régulièrement.
Sur le site officiel. Bah, tu viens de révéler mon secret. Les gens pensaient que j'avais tous ces chiffres de tête. Non, allez voir sur le site officiel de Capcom. C'est incroyable. Ça, si on pouvait avoir ces chiffres avec tous les éditeurs, ça serait trop bien.
C'est clair.
Alors Capcom a même lancé une mode, hein, avec ses remakes, ils ont inspiré Electronic Arts, par exemple, avec son remake de Dead Space. Donc, on peut dire que les remakes de Resident Evil, ce sont des gros succès, de belles impulsions créatives, et elles génèrent aussi de très bonnes ventes. Capcom semble donc sur des rails, alternant nouveaux épisodes canoniques et remakes. Le problème, c'est que faire le remake de RE4, c'est pas le même enjeu que faire ceux du 2 ou du 3. C'est pas exactement la même mission. Et pour comprendre pourquoi, on va se poser la question de la place de RE4 dans la série. Alors RE4, c'est simple, c'est un jeu qui a révolutionné la saga de Capcom, et ça à plusieurs titres. RE4, c'est le retour du père de la série, Shinji Mikami, hein, qui après avoir fait RE1 est parti plus en production sur Resident Evil, il est revenu sur RE4, et il a réussi quand même à pondre un jeu de légende avec un développement très compliqué, et perso, moi je connais pas d'autres exemples. Hein. Habituellement, un développement à ce point complexe, ça donne rien de bon, ou du moins rien d'intemporel, peut-être, je dirais, MGS5, qui a connu un développement compliqué et qui est resté dans l'histoire. Est-ce que là, de tête, Nico, tu aurais un développement comme ça qui est resté malgré tout?
Non, mais c'est vrai que le développement de MGS5 a été compliqué, mais RE4, c'est qu'il a été rebooté, en fait, plusieurs fois. Donc, c'est qu'il y a eu plusieurs tentatives. Donc, effectivement, c'est vrai que réussir à garder la motive et l'idée créatrice forte, c'est assez étonnant, quoi.
RE4, c'est aussi un renouveau pour la saga, qui commençait à cette époque à tourner en rond et à multiplier les épisodes. Capcom, on les aime, mais on les aime aussi pour leurs défauts. C'est quand ils ont quelque chose en main, ils le lâchent pas. Et enfin, RE4, ça a été une révolution pour l'industrie dans sa globalité, car c'est le jeu qui a imposé la caméra dite de derrière l'épaule, une caméra qui, encore aujourd'hui, est très utilisée. Preuve en est God of War Ragnarok, qui est sorti fin d'année dernière, qui était voilà un prétendant au GOTY avec cette caméra, donc pas mal quand même.
Le... Ouais, c'est qu'on en parle comme le daron du TPS moderne, quoi. Donc Gears et compagnie. Quoi.
Voilà. Bon, on va pas faire un historique de RE4, sa place, tout ça. On a rapidement résumé, mais bon, si on veut en savoir plus, est-ce qu'il y a moyen, Nico, d'en savoir plus sur Resident Evil
Peut-être bien. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien à la caméra, mais on a édité chez Sœur d'un 2 bouquins sur la saga Resident. Donc le premier qui couvre les origines de la série jusqu'à Révélation 2. Et le second voilà qui prend la suite et qui est bien plus récent, écrit par Patrick Helio. Donc si vous voulez voilà avoir une vue sur les épisodes old school, faut aller sur le premier volume et sur les épisodes plus récents, ça sera le volume 2.
Il y aura bien plus de détails.
Tout à fait.
Alors, Resident Evil 4, c'était aussi un jeu qui était signé en exclusivité pour une console, c'était la GameCube. Le jeu, alors comme les autres épisodes, a été porté sur tous les supports, mais il a été originellement pensé pour la manette GameCube. Alors j'ai refait cette version après les remakes pour bien voir les différences, et en fait j'avais oublié à quel point il avait été imaginé pour la console de Nintendo, pour ses capacités, mais aussi et surtout pour sa manette. Mais même si la maniabilité, elle a été pensée autour du mapping de la manette GameCube, ce qui est incroyable, c'est que le jeu, il est resté une merveille sur les autres consoles. Alors, il faut dire que Capcom, elle les exclut, c'est tout un délire, pour RE4, voyant que la GameCube ne rencontrait pas le succès escompté, ils sont allés briser le contrat avec Nintendo, et dès lors, le jeu a été porté sur Wii, donc avec du motion gaming, sur PS2, donc avec une DualShock, sur PC, avec une souris, si vous avez envie de tester, puis un HD, donc rien à voir avec la manette. Et à chaque fois, c'est ça qui est important de souligner, c'est que quelle que soit la façon de jouer, quel que soit le pad, le jeu est resté un chef-d'œuvre. Et j'insiste sur le terme chef-d'œuvre, car dans son sens d'origine, ce terme-là, le chef-d'œuvre, c'est la pièce qui marque l'achèvement de la formation de l'artisan, qui, grâce à cette production, passe du statut de compagnon à celui de maître. Et RE4, c'est la même chose, c'est un aboutissement pour la série Resident Evil. Donc faire un remake de Resident Evil 4, une telle pierre angulaire, en fait, c'est pas rien. Comment réinventer RE4 Contrairement. Car le souci, c'est que le remake de RE4, il va pas changer de paradigme, comme ont pu le faire les remakes de RE2 et 3. Et là, je vous vois froncer les sourcils avec vous vous dites qu'est-ce qu'il veut lui avec ces paradigmes-là, ça veut dire quoi? Alors, ça veut dire quoi un changement de paradigme quand on parle de Resident Evil? Alors, quand je parle de paradigme, je parle de modèle. Et quand il est question de Resident Evil, et qu'on veut en distinguer des périodes, on va dire des cycles, le plus simple, je crois, c'est de se référer au type de caméra utilisée. On va dire qu'il y a la période 1, donc la période caméra fixe, avec Resident Evil 0, 1, 2, 3, Code Veronica. Petite subtilité pour Code Veronica, il y avait des travelling, on va dire. Mm. La période 2, on va dire la période caméra TPS, donc celle de RE4, donc avec RE4-5-6. Et la période 3, la période de la caméra subjectif, FPS, donc First Person Shooter, avec RE7 et 8. Et donc, pour faire les remakes de RE2 et 3, et afin un petit peu de bouleverser le regard et le souvenir qu'on pouvait avoir des premiers jeux, il a été choisi de changer de paradigme, de changer de caméra. La caméra fixe de la période 1 s'est transformée en caméra TPS de la période 2. Et hop, par une simple modification de caméra, le point de vue du jeu a évolué, il s'est modernisé, tout comme le regard qu'on portait sur ses aventures. Et les remakes de RE2 et 3 n'ont pas adopté n'importe quel modèle, ils sont passés sur celui de RE4. Et ce nouveau paradigme deviendra dès lors le modèle des autres remakes. Le souci, c'est qu'avec le remake de RE4, il n'y a pas de changement de paradigme, il n'y a pas de changement de caméra. Le remake de RE4 reprend la caméra derrière l'épaule du jeu original. Le point de vue reste le même. Comment RE4 peut se réinventer alors qu'il est construit sur les mêmes fondations que son épisode original? Comment RE4 peut devenir autre chose mais avec la même caméra? Franchement, c'est pas évident et c'est ce qu'on va se demander. Si on était dans un épisode de Top Chef, l'épreuve serait ici de réinventer la tarte aux fraises, mais en utilisant uniquement les ingrédients d'une tarte aux fraises. Et franchement, pas évident. Donc t'as pas le droit de mettre du basilic dans ta tarte aux fraises. Hein,
ça serait la saison de l'audace, je pense. Il irait dans Top Chef. Il dit ça chaque année, en fait. Mais effectivement, c'est un challenge.
Mais, et en plus, c'est pas tout. Parce que la seconde difficulté pour le remake de RE4, c'est de réinventer un jeu qui n'a pas vieilli. RE4, aujourd'hui encore, sur GameCube, c'est un chef-d'œuvre. Ça bouge pas. Et ce sont les qualités intemporelles du jeu qui vont au final représenter les plus grands obstacles pour les développeurs du remake. Comment transcender un gameplay qui fonctionne encore? Comment rénover, tu vois, un rythme RE4 qui avait scène culte sur scène culte? Comment tout changer? Et tout changer, n'est-ce pas aussi prendre le risque de tout casser? On est loin, par exemple, de la maniabilité tank de RE2 et 3 originaux. Dans cette situation, ça tombait sous le sens de proposer quelque chose de plus dynamique avec les remakes. Alors, comment les devs ont adapté RE4 pour un public de 2023? C'est ce qu'on va se poser comme question tout de suite. Quand on regarde la production des remakes dans leur globalité, une majorité de ces refontes ajoutent des choses. Ils agrémentent l'expérience de base. RE4 Remake va aussi grandement enrichir l'aventure originale, mais il va aussi étrangement en retrancher des éléments. Et ça, c'est moins commun. Même si Capcom, je crois, avec un RE3, ils sont déjà amusés à enlever des trucs.
Ouais, c'était une des choses qui avait surpris, dans le bon sens, c'est qu'il y avait des passages assez cultes de RE3, notamment la partie dans le beffroi qui évoquait un peu les feelings de RE2, machin, avait été supprimée du remake.
Le ver.
Idem pour le passage dans le cimetière, le combat contre le ver gigantesque. Et c'est vrai que, alors on sait pas pourquoi ça a été supprimé, peut-être pour des questions de rythme ou de crédibilité, on va dire, mais ça avait manqué quand même.
Mais je trouve
déjà
ça
que l'aventure était courte, en
c'est
plus.
C'est vrai, tout à fait. Mais je trouve ça intéressant, ce désir peut-être d'enlever quelque chose dans les remakes. C'est pas naturel, j'ai l'impression. Et les éléments retirés dans RE4 Remake, ce sont des éléments qui sont aujourd'hui très marqués par les années 2000. Pour rappel, RE4 est sorti en 2005, pile poil au milieu, espèce d'incarnation des années 2000.
Ouais, et puis ça va faire 20 piges.
Exactement, ça fait mal. Alors le premier élément supprimé dans le remake, ce sont les QTE, les Quick Time Event, qui ont été popularisés par Yu Suzuki et Shenmue. Bon, je sais que les anciens penseront à Dragon Slayer ou Road Avenger. On pense au Mega CD, toujours. Alors, adoré...
toujours, je ne sais pas. Bon.
Alors, adoré par certains, décrié par d'autres, les QTE, ce sont des boutons à presser au bon moment pour réussir une action. Les QTE, ce sont un petit peu une pratique qui s'est moquée, mais bon, perso, moi, je les kiffe bien, mais je trouve que c'est un petit peu bête de critiquer une pratique, genre dire les QTE c'est nul ou les QTE c'est génial. Ce qui importe, c'est leur bonne ou leur mauvaise application. Mais qu'on aime ou pas les QTE, il faut avouer que c'est une mode qui fleure bon les jeux d'une autre époque, les jeux des années fin 90, 2000. Est-ce que toi, déjà, t'as comment tu penses ça, les QTE, aujourd'hui? Est-ce que t'en as un bon souvenir? Est-ce que tu kiffes cette pratique?
Ouais, moi j'aime bien. Ça m'a jamais trop dérangé. Après, évidemment, faut que ce soit, comme tu le dis, bien fait, que ce soit pas abusé et tout, mais après, en tant que fan des jeux David Cage, je ne peux qu'apprécier les QTE, donc...
Je crois que tu n'as pas le choix, en tout cas.
Oui, mais bon, tu vois, après, c'est des modes, comme tu dis, là, c'est vrai qu'on est plutôt dans une époque qui a tendance à les foutre sous le tapis. Mais ouais, il y a toujours moyen. Après, bon, c'est sûr, quand tu dois bourrer sur le bouton X pour soulever une porte, c'est pas le truc le plus passionnant du monde, mais bon.
Ouais.
Ça peut, comme tu dis, ça peut être une mécanique à trouver. Il faut trouver son intérêt, quoi, voilà.
Et des QTE, RE4 en était pétri. Son remake les a donc tout simplement retirés. Donc, bye bye les QTE. Même si on peut noter l'esquive, qui peut s'apparenter à une forme de QTE, tu viens le dire, qu'est-ce qui est un QTE, qu'est-ce qui ne l'est pas, bourrer un bouton pour soulever une porte, est-ce que c'est encore le cas? Il faut juste se rappeler que sur GameCube, une esquive, c'était deux boutons en même temps, qui n'étaient pas forcément tout le temps les mêmes en fonction des situations, donc là, on pouvait quand même plus s'apparenter à du QTE, parce qu'il fallait être clairement attentif à ce qui nous est demandé.
Ouais, et puis les notions de timing étaient aussi la prépondérante.
Oh là là, ça c'était très serré. Alors, petite digression, mais bon, vous allez comprendre où je veux en venir. J'ai cru capter que l'acte 3 de RE4 était moins apprécié, dans sa globalité. Pour rappel, l'aventure se découpe en trois parties, le village, le château et l'île. Et donc, il est question de l'île quand je parle de l'acte 3. D'ailleurs, les derniers chapitres des Resident Evil sont systématiquement critiqués. Ils détonnent trop avec l'ambiance du début des jeux, le versant action prend toujours le pas sur l'atmosphère, et on visite souvent des labos qui sont secrets et des labos qui sont souterrains. Perso, ça me dérange pas, car ça fait partie des codes de la série. Et je pense que si on apprécie tant le début des Resident Evil, que ça soit le manoir, le commissariat, le château, le village, c'est justement parce que le changement de ton intervient à la fin de l'aventure, ce qui distingue et met en valeur les lieux emblématiques qu'on visite au début. Alors, je connais personne qui dit la fin de tel ou tel Resident Evil, c'est vraiment le moment que je préfère. Cet écueil, il a touché tous les épisodes, et même RE4 n'y a pas échappé. Et je crois que si on est si peu à apprécier la partie de l'île dans RE4, c'est justement à cause des QTE, et des affrontements très pénibles avec Krauser, hein, qui nous demandait une précision de tous les instants. La question qu'on peut se poser avec le remake, c'est, est-ce qu'il va réussir à conjurer le sort de l'acte 3 maudit? Et la réponse, pour ma part, est oui. Déjà parce qu'il y a plus de QTE et les combats avec Krauser s'en trouvent bien plus agréables, mais aussi parce que cette partie a gagné en ampleur, tout est beaucoup plus dense, impressionnant, même si on reste sur l'île, elle n'a plus du tout, je trouve, la même envergure, elle est beaucoup plus impressionnante. Pardon. Nico, qu'est-ce que tu as pensé de cet axe 3? Est-ce que le retrait des QTE te l'a rendu déjà un petit peu plus agréable?
Alors, c'est vrai qu'on, je pense que quand je l'avais fait à l'époque sur GameCube, je l'avais pas mal vécu, mais c'est vrai que c'est toujours après coup. Tu te dis, ah putain, finalement, c'est et je pense que ça va être un peu la même chose là, parce que je l'ai trouvé plutôt cool aussi, hein. Mais malgré tout, ça reste la partie que j'apprécie le moins, et tout bêtement, pour la direction artistique, parce que on se retrouve dans un truc industriel avec des barbelés, avec des tonneaux, des machins. Enfin, quand tu sors du village et du château, qui sont esthétiquement incroyables, je trouve. Notamment le château, je trouve qu'il développe des ambiances assez ouf. Ben ouais, t'es toujours un peu, tu restes sur ta faim. Et là, comme tu l'as dit, c'est systématique pour tous les épisodes, donc c'est quelque chose qui est volontaire de la part de Capcom, parce qu'ils se disent pas, ah, on fait quoi, on n'a pas d'idée, vas-y, on met un labo ou une usine. Donc c'est forcément, c'est volontaire en fait qu'ils veulent terminer sur ces trucs-là.
Ça fait partie du rythme, ça redynamise. Après, qu'on préfère ou pas, chacun des ambiances un petit peu plus tranquilles ou un petit peu plus envoûtantes, on va dire, des débuts des jeux, peut se comprendre aussi.
Ouais, mais là, tu vois, j'ai un PTSD, l'usine de RE Village, là aussi, pour, qui m'avait trop saoulé.
C'est vrai que tu l'avais vraiment pas. Bon, revenons à nos moutons. Bon, j'ai toujours rêvé de dire ça, un big up à ma prof de français de 6ème qui disait ça toutes les 30 secondes.
Revenons à nos moutons.
Revenons à nos moutons. Et je comprenais pas à l'époque ce qu'elle voulait. Elle était mouton, toi. Donc, on parlait donc des choses qui ont été retirées de RE4 dans le remake, donc des retraits liés à l'époque, hein, aux années 2000. Et la nouvelle chose qu'on va évoquer, bah, il faut aller la chercher un petit peu du côté du cinéma. Alors, c'est la mise en scène cheesy, complètement cheesy des cinématiques du jeu original. Des cinématiques qu'on qualifierait aujourd'hui d'un petit peu ringardes, sans être...
Carrément ringardos, ouais.
Car elles étaient blindées de ralentis façon Matrix. Matrix, le film de 99, hein, donc on est dans la bonne temporalité. Un film qui a influencé toutes les œuvres de tous les médiums confondus les 10 années suivantes. Ce qui est marrant, c'est qu'à l'époque, on les kiffait. T'as, tu vois, ces cinématiques, on était là...
Boah! Ouais, et puis même RE5, je crois que c'était peut-être encore pire, mais c'est vrai que c'était la mode à l'époque, comme on dit dans les Simpsons.
Alors, dans RE4 Remake, la mise en scène est bien meilleure. Alors, cinématographiquement parlant, hein, le choix des plans, ce qui nous est raconté par l'image, tout est mieux fichu. Après... Bon, ça reste une réalisation légère, ça reste un petit peu bis, ça passe mieux, ça détonne pas trop, ça fait pas dater. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Nico, de ces cinématiques?
Bah, c'est plus sobre, en fait, et comme tu dis, il y a tout un travail, et même qui est général sur le jeu, c'est comme tu ne pas dater le jeu dans le temps, que voilà, on pourra y jouer toujours dans 10 ans, t'auras aucun marqueur qui va te dire, ah là là, ça, ce truc, c'est vrai que c'était...
Ou alors, on le remarque pas. C'est-à-dire que ça baigne dans
peut-être
le...
Peut-être que dans 10 ans, voilà. On se dirait, rappelez-vous, c'était l'époque, la sortie d'Avatar 2.
C'était en 3D, on pouvait loucher. Bon, côté cinéma encore, les années 2000 ont été marquées par Le Seigneur des Anneaux. Alors, on se souvenait tous, hein, on est tous allés le voir quand on était au collège. La trilogie à... Collège ou lycée? Plutôt lycée. Donc, la trilogie, elle a couru de 2001 à 2003. On est encore dans l'incarnation totale des années 2000.
C'était ouf.
Et donc, ce monstre El Gigante de RE4 est clairement une référence à un troll. Hein. Jusqu'à la mise en scène de son entrée, ça nous fait penser au film de Peter Jackson. Dans le remake, bah, le monstre est conservé, mais comme pour le côté cheesy, bah, c'est mieux intégré, en fait.
Et même Louis, qui était un rip-off de Aragorn, hein, qui avait la tête de Aragorn.
C'est vrai que...
Et là, ils l'ont changé un petit peu, quand même.
Alors, en fait, dans RE4, tout est plus fluide, mieux incorporé, plus dans son temps. Les dialogues, un autre point, bah, ils sont mieux écrits que dans l'original. Et il y a aussi les échanges radio, qui ne stoppent plus notre progression. Voilà encore un élément typique des années 2000. Ces coupures radio sont clairement des codecs à la Metal Gear Solid. Et comme pour Matrix et Le Seigneur des Anneaux, à cette époque, hein, c'était de bon ton de ressembler à la série de Kojima. Et il y a même certains morceaux, hein, du jeu original qui sonnent comme du MGS, ces fameux moments de ralenti. Justement, je vous conseille de les remater. T'as l'impression de voir Sons of Liberty. Mais vraiment, c'est incroyable. Il y a un autre truc super rigolo, en fait on pourrait croire que les clins d'œil et l'inspiration MGS de l'époque sont allés plus loin, car Léon il fait une sorte de CQC, donc c'est du close quarter combat, hein, du combat rapproché avec le couteau à l'envers comme ça. Alors C'est pas possible que ça soit un emprunt, car MGS3, il est sorti en mars 2005 chez nous, le même mois que RE4. Donc on peut dire, mois de ouf malade.
Je crois qu'on
en parlera, tout à l'heure.
Et je crois qu'il y avait, il y a pas de Devil May Cry 3 aussi.
Oh là, c'est beau, regarde un petit peu sur mes notes. J'allais te dire, effectivement, il y avait DMC3.
Ah, mais je me rappelle, j'ai des souvenirs de ouf de cette époque.
Pas pire ce mois, on va dire. C'était plutôt pas mal. Je crois que l'un de nos console syndrome fanzines, on avait en fait en couverture DMC3 et il y avait un critique justement du Resident Evil, du MGS3, donc il y avait de quoi traiter quoi.
Ah, et je me rappelle le jour où on était allé à Toulouse acheter MGS3.
Ah non, franchement,
ah là là, ça ne nous rajeunit pas.
Des beaux souvenirs. Bon, dans le remake, Léon fait toujours du CQC. Et même si c'est pas une référence à Snake, hein, il se trouve que ce détail est un peu plus expliqué dans le remake. D'ailleurs, au global, les personnages gagnent en épaisseur et donc certains éléments du passé des héros seront précisés. C'est subtil, c'est jamais accessoire et ça va toujours dans le sens d'adapter RE4 de façon plus contemporaine. Certains personnages seront donc plus importants dans le remake que dans l'original, d'autres, au contraire, le seront moins. Qu'est-ce que tu en penses, tout en gardant le secret, sur cette refonte du scénario, le fait que ça soit adapté, mais plus subtil, on le remarque pas forcément.
Ouais, ben c'est, voilà, ils ont affiné, ils ont gommé un peu ce qui dépassait, c'est rendu plus efficace, en fait, plus fonctionnel, quoi. Après, sur ce point de vue, moi, il y a toujours un point, je trouve, qui me fascine, c'est le vendeur, quoi, le marchand.
Oui.
Qui est toujours complètement hors de la diégèse complète. Oui. C'est-à-dire, tu peux arriver avec le marchand et t'accompagner de Ashley, par exemple, et donc le marchand te parle, mais Ashley va jamais dire, mais c'est qui ce mec, enfin. Et lui, je trouve, il a gardé ce côté un peu hors du temps et tout. Et bon, ça passe quand même, hein, tu te dis pas, mais d'où il sort ce truc et tout. Mm. Et je trouve ça assez rigolo, quoi.
C'est un truc très jeu vidéo qui a été conservé, alors que, bah là, on va voir dans RE4 Remake, bah, ils ont retiré des trucs qui étaient très très jeu vidéo, genre des plateformes, des trucs qui tournent, des mécanismes, de la lave. Et là, je parle pas d'un boss qu'on connaît tous qui était dans l'original qui a la lave. Non, je parle d'autres choses. Tout ça, ça rend pas les environnements ou le château, en l'occurrence, plus réalistes, mais ça choque moins. De même pour les énigmes. 100% des énigmes ont changé. Elles sont pas moins tarabiscotées, mais le contexte dans lequel on doit les résoudre est un peu mieux intégré à l'ambiance. Les énigmes sonnent encore comme du Resident Evil, mais c'est moins nawak que dans l'original. En fait, le remake propose le meilleur des deux mondes, le charme de la série est là, mais l'ambiance est moins dénaturée par des énigmes un petit peu tirées par les jeux. Et comme tu vois, ils ont retiré plein de trucs jeux vidéo, et le marchand, c'est vrai qu'il est resté lui.
Ouais. Et ce qui est marrant, c'est qu'ils ont gardé le système de jeux vidéo, mais je pense que tu vas y venir...
Tant qu'on parle des environnements, de l'ambiance, hein, le rendu graphique du remake m'a fait réaliser un truc, c'est à quel point l'acte 1 du jeu, donc le village, ressemblait en réalité à RE7. L'atmosphère à la trou détective, des petites poupées en bois chelou là. De même pour l'acte 2, le château qui lui est complètement repris dans RE8. Bon, ça on l'avait tous remarqué hein, dès les trailers de RE8. Ce que je veux dire, c'est que le remake m'a montré à quel point RE4 était une base pour la série à tout point de vue. Le gameplay, mais aussi les ambiances. Le troisième cycle, on a parlé tout à l'heure des périodes, des grands cycles de Resident Evil. Ben, le troisième cycle, celui de RE7 et RE8, ben, le renouveau avec la caméra FPS, tout ça, en fait, ils sont allés chercher du gameplay, mais ils sont aussi allés chercher de la vigueur et de la fraîcheur dans RE4, dans son ambiance de RE4. Ils sont allés se ressourcer dans un jeu qui était intérieur. Et ça, je trouve ça ouf, tu vois, qu'ils sont allés chercher le gameplay. Évidemment, on va y venir, mais ils sont aussi allés chercher l'atmosphère.
Ben, quand t'as un tel monument, c'est vrai que dans ta série, ça reste, je pense, c'est la valeur sur un peu à laquelle se raccrocher quand tu cherches un peu ta voix, quoi.
C'est vrai que tu vois, le château, on l'a tous rodé quand on a vu les débuts de RE8, on a dit, ah ouais, mais c'est du RE4. Mais là, en refaisant RE4 sur GameCube, mais en fait, il y avait déjà tout. C'est juste que c'est le rendu graphique du remake qui fait, ah mais non, mais en fait, c'est du RE7. Et donc, au global, est-ce que c'est pas l'occasion de faire un petit point ambiance graphisme? Qu'est-ce que t'en as pensé, toi?
Bah, c'est assez dingue. Alors, c'est marrant parce que je trouve que graphiquement, il est peut-être, il y a un peu plus de petits défauts que j'en ai remarqué dans RE2 et 3 remake avec des petits éléments, tu vois, par exemple, les textures des pierres, quand tu les regardes, c'est vraiment pas ouf et tout, mais je trouve le, enfin, ce qui est important, c'est le sentiment global que ça dégage et l'ambiance que ça véhicule, et ça, c'est assez incroyable, quoi. Le jeu, enfin, on dit souvent, c'est t'as des concept art qui prennent vie, et là, combien de fois je me suis arrêté en disant, putain, ça a une gueule de concept art, c'est magnifique.
C'est incroyable. Quoi. Bon, on s'est gardé le gros morceau, hein, pour la fin, le gameplay. Comment le remake a renouvelé le gameplay de RE4? Comment a-t-il fait pour faire au moins aussi bien que son modèle? Bon, on va passer rapidement hein, sur tout ce qui concerne le confort de jeu, car tout simplement, le remake de RE4 est un jeu de 2023. Il possède toutes les options de qualité de vie de rigueur actuellement. Contrairement à l'original, par exemple, on passe pas 50% de notre temps dans le menu pour changer d'arme, ce qui était le cas sur GameCube. Là, c'est possible de le faire à la volée, on peut reconfigurer jusqu'à 8 armes sur le D-pad, c'est super pratique. De même pour la manette, elle se range à présent automatiquement d'une pression sur le stick. Vous n'êtes pas obligé, Perso, moi, je trouve que c'est un petit peu dommage, car ça minore l'intérêt d'avoir un inventaire qui est limité et customisable, justement. On a tout ce qui fait ranger minutieusement un petit peu notre mallette. Là, aujourd'hui, si vous appuyez sur le stick, ça sera optimisé.
Ouais, au moins, c'est ma grande passion de réorganiser ma mallette, mais tu m'as appris qu'il y avait cette organisation automatique. J'étais déjà, genre, à plus de la moitié du jeu. Et du coup, quand j'ai essayé, ça a complètement pété la façon dont moi je le changeais. Donc, j'ai tout rechangé à la main, en fait.
Et t'as arrêté de le.
J'ai arrêté de l'utiliser, ouais.
Ah, mais c'est vrai. Après, moi, c'est vrai que si tu me donnes l'option de le faire, c'est vrai que je vais l'utiliser.
Si je l'avais su dès le début, je pense que je l'aurais fait aussi. Hein, mais...
Parce que j'ai essayé à de nombreuses reprises. Par exemple, il y avait une arme qui rentrait pas dans ma mallette. Et j'ai essayé, ça rentrait pas avec le rangement automatique. J'ai rangé moi-même comment je l'entendais. Et ça rentrait pas. Donc j'ai remarqué que oui, le rangement automatique était optimal. Donc j'ai fait, laisse tomber, hein, je vais l'utiliser tout le temps. Mais s'il y a une chose qu'on retient du gameplay de RE4 initial, hein, c'est qu'il était très dynamique, alors que le héros restait statique. En effet, alors pour les plus jeunes qui nous écoutent, hein, dans RE4, on était cloué au sol pendant les phases de shoot. Alors évidemment, c'est plus le cas dans le remake. Mais ce qui est incroyable, c'est que le plaisir du jeu du titre original est conservé alors qu'on peut bouger en tirant. Et même si à présent, on peut se mouvoir en shootant, le remake parvient à garder un gameplay arcade super plaisant. Alors, l'action non-stop et les faisceaux de couleurs hein, qui nous renseignent sur le loot sont toujours là, et ça aide à rappeler le feeling arcade, hein, mais ça fait pas tout. C'est vrai que tu parlais tout à l'heure du marchand qui fait très jeu vidéo, ces faisceaux-là, ils restent encore là.
Ouais, bon, ils sont un peu plus discrets quand même, discret, mais c'est toujours là, tu vois, quand tu tires sur dans la tête d'un mec, t'auras le petit truc au-dessus de sa tête, en mode, vas-y, viens me mettre un high kick, ça aussi, ils l'ont gardé, quoi.
En fait, RE4 mariait parfaitement deux choses. Je parle de l'original. Le level design, qui jouait justement de la contrainte de l'immobilisme du héros. Et seconde chose, le jeu nous proposait un grand nombre d'alternatives pour contrer les ennemis. Des options environnementales, genre se barricader, virer une échelle, et une nouvelle panoplie de coups avec Léon, couteau, coup de pied, tout ça. On avait donc un stress intense à voir les ennemis fondre sur nous, parce qu'on pouvait pas bouger, mais en contrepartie, on avait énormément de possibilités pour nous défendre. Et le génie du jeu était de conjuguer tout ça, mais tout en restant super équilibré. Dans le remake, c'est exactement la même chose, mais la contrainte pour les développeurs était cette fois de nous offrir la possibilité de bouger en tirant. De ce fait, le level design est plus en verticalité, plus en grandeur, il se répand un peu. Et donc, il est parfaitement adapté à la nouvelle mobilité de Léon. De même pour les nouvelles options de combat. Le contre, qui est une nouveauté, entre parfaitement dans la logique arcade du jeu. Là, pour l'instant, c'est super raccord avec la philosophie arcade. L'alchimie est parfaite et on ressent le même plaisir qu'à l'époque, alors que dans le jeu original et son remake, ce sont presque des valeurs de game design qui sont opposées. Et ça, je trouve ça complètement ouf, alors que le feeling est le même. Quoi.
Moi, je trouve que c'est prodigieux la façon dont ils ont su capturer un feeling, alors en modifiant complètement le système. Enfin, c'est vrai, comme tu l'as dit, c'était caractérisé par ce côté la vue TPS et le côté statique quand tu tires, donc avec la peur que les ennemis arrivent sur les côtés ou derrière toi. Et en fait, là, on a vraiment le même feeling qu'à l'époque, alors qu'en jeu, voilà. C'est vrai qu'il y avait toujours ce débat à chaque fois, dans les interviews aux devs, pourquoi on peut pas tirer en se déplaçant, et eux disaient, c'est parce qu'on va perdre la sensation de peur. Enfin, c'est quelque chose à laquelle ils tenaient.
Oui.
Et en fait, non, on s'est rendu compte que ça avait rien à voir, quoi.
Ça a quelque chose de magique. Je suis d'accord avec toi, c'est prodigieux ce qu'ils ont réussi à faire. Et en parlant de choses opposées, il est amusant de voir que dans ce remake, on peut faire de l'infiltration. Dans un jeu typé arcade, je trouve que c'est plutôt culotté et ça marche bien.
Ouais, mais c'est vrai que le contre et l'infiltration, je me suis dit, mais ça va péter complètement le gameplay de base. Et en fait, non, parce que ça s'intègre super bien. C'est pas des choses dont on peut abuser ou qui vont, enfin, ça reste dans l'équilibre du système de jeu. Et ça apporte plus un petit bonus, en fait. Et ça dénature pas du tout le gameplay, quoi.
Ici, si on était dans un épisode de Chef, l'épreuve serait de réinventer la tarte aux fraises mais sans utiliser de fraises. Et franchement, c'est chaud.
Épreuve compliquée.
Peut-être, je sais pas quelle saison de Top Chef, mais
dans la boîte noire.
Tout ça, c'est compliqué quand même. Alors, au début de la chronique, je vous disais que le jeu s'appelait simplement Resident Evil 4 et pas Resident Evil 4 Remake. Où je voulais en venir, c'est que pour moi, le remake a remplacé l'original. Il s'est complètement substitué à lui. Je viens de finir à nouveau le jeu GameCube et je pense que c'est la dernière fois que je le ferai de ma vie. Le jeu de 2005 garde et gardera ses singularités, son charme, sa manette, ses graphismes de l'époque, mais au global, l'expérience du remake de RE4 est la même que celle de l'original, alors que les jeux sont complètement différents. Et c'est ça l'exploit. Dans le remake, tout est amélioré, tout est magnifié. Néanmoins, le plaisir de jeu reste le même alors que les gameplays sont différents. Alors, on aurait pu avoir le même débat sur The Last of Us et son remake. Et la conclusion aurait été la même. Le remake de The Last of Us s'est substitué au jeu original. Mais avec RE4, c'est encore plus ouf, encore plus subtil. Car concrètement, RE4 et son remake n'ont presque plus rien à voir. Pourtant, la sensation manette en main est exactement la même. Contrairement à The Last of Us et son remake, qui sont exactement pareils. Seuls les graphismes, les modèles 3D, la colorimétrie limite changent, mais c'est les mêmes jeux. RE4 remake, c'est comme RE4, ça en a le goût, mais si on se penche sur le jeu, rien n'est similaire. C'est comme devoir revisiter une tarte aux fraises en Top Chef. Ce nouveau plat, ben, c'est comme une tarte aux fraises, ça en a le goût, mais si on se penche sur le gâteau, rien n'est similaire. Alors, avec le recul qu'on a sur la pratique des remakes, sur le nombre de remakes qu'on a pu faire depuis, je trouve que ce qui est important au final, c'est qu'un bon remake soit un jeu différent de son modèle. Ce qui est le cas de RE4 et son remake. Mais on vient de le voir, le cas de RE4 est particulier, car le remake incarne une certaine forme de perfection. Une perfection formelle, parce que c'est un excellent jeu, et c'est aussi une perfection d'ambition, être un remake. RE4 Remake est différent tout en étant similaire à son modèle. Et ça, je trouve que c'est complètement ouf. On parlait tout à l'heure de choses exceptionnelles, de choses magiques. Comment tu fais pareil en étant différent? C'est complètement malade. Bon, il y a aussi Resident Evil 2 et Resident Evil 2 Remake, qui sont deux jeux différents. L'un est pourtant le remake de l'autre, mais tous deux traverseront l'histoire du jeu vidéo en tant que deux œuvres radicalement différentes. Et ça, est-ce que c'est vrai avec les autres remakes? Est-ce que, alors voilà, c'est la marotte et le bingo, Final Fantasy VII Remake ne s'appelle pas Final Fantasy VII, mais ça a du sens. Les deux jeux sont donc deux jeux radicalement différents. Est-ce que c'est le cas pour Dead Space, pour Resident Evil Rebirth, pour Metal Gear Solid Twin Snake? Nico, quel est ton avis sur la pratique des remakes, le fait que les jeux sont différents, que les jeux sont pareils? Qu'est-ce que t'en penses de tout ça?
C'est vrai que Dead Space, je crois que c'est ce que j'avais dit, que du coup ça rendait un coup de vieux à l'ancien parce qu'il n'y avait plus d'intérêt à y jouer aujourd'hui. Mais ce qui est important, c'est quand on dit, tu vois, quand il y a des remasters par exemple de JRPG, on se dit tiens, ça quand j'y joue, ça me donne l'impression d'avoir la sensation de l'époque,
le souvenir.
Voilà, tel que tu l'imaginais en fait, tu retrouves le jeu tel que tu l'imaginais dans ta tête, alors que le jeu était beaucoup plus moche, vieillot et tout. Et je trouve qu'avec les remakes de Resident Evil, Capcom fait super fort, c'est que là aussi j'ai l'impression de retrouver mes sensations de jeu de l'époque, alors qu'il y a eu énormément de changements, quoi.
Ouais.
Et c'est ça qui est capital. Et ce soit autant dans RE2 que dans RE4, hein. C'est vraiment deux jeux que j'adore. Et voilà, j'ai les mêmes sensations qu'à l'époque.
Oui.
Alors que c'est des jeux aujourd'hui, tout ce qu'il y a de plus moderne, en fait.
Exactement.
Donc, il y a rien qui est archaïque, il y a rien qui est old school, il y a rien qui est vieillot. Mais ça recapture carrément, l'essence des jeux. Et, tu l'as dit, RE4, le challenge était autrement plus complexe et compliqué, donc vraiment chapeau à Capcom là-dessus. Enfin, ils ont vraiment trouvé, tu vois, c'est l'alchimie, quoi.
Ouais, il y a vraiment
l'alchimie magique. Toujours avoir le bon, enfin, ils auraient pu se chier complètement, tu vois, partir un peu trop dans une direction ou dans une autre, mais ils ont réussi à chaque fois à viser juste, quoi, sur leur remake.
Ouais. Un équilibre parfait, et c'est ce que j'essaie de soulever, c'est que dans ce changement de paradigme, d'entre RE2 et RE2 remake, t'as un changement qui est flagrant, avec cette caméra, et ils ont réussi à donner un feeling similaire en changeant le paradigme, mais là, avec RE4, c'est qu'ils l'ont gardé, c'est la même caméra, le jeu est différent, le gameplay, c'est complètement ouf, et on a tous en mémoire Mikami qui revient sur le développement et qui propose quelque chose qui est radicalement différent des premiers Resident Evil, avec quelque chose de plus action, quelque chose de plus arcade, et un héros qui est cloué au sol mais qui va impulser une certaine forme de dynamisme, et on s'est tous dit mais comment il a réussi à faire ça? Et là, ils ont réussi à faire la même chose alors qu'on peut bouger, alors qu'il n'y a plus Shinji Mikami. C'est ça aussi qui est important, c'est que le défi, et on l'a un petit peu listé tout à l'heure, c'est qu'il est multiple, quoi. Et vraiment, bah, franchement, coup de chapeau.
Vous ne serez pas déçus, et je pense que quand on parle de RE4, ça montre à quel point c'est réussi.
C'est vraiment incroyable. Alors moi, j'ai une affection toute particulière pour le premier Resident Evil, et mon préféré, c'est le Rebirth, parce que voilà, il a revitalisé ce premier Resident Evil en restant dans ce même paradigme. Mais je pense que RE4 Remake est peut-être du coup le meilleur Resident Evil, tu vois, genre dans sa globalité, il a une certaine forme de perfection. On l'a à peine effleuré, mais on n'a pas parlé du rythme. Scène culte sur scène culte sur scène culte.
Ce qu'on se disait entre nous, c'est que le village, je pense, la section du village en tant que telle, c'est meilleur que RE3 par exemple, ou que RE0, enfin. Et là, tu prends la section du château, ça sera meilleur que d'autres épisodes. Et là, en fait, c'est vrai que, je disais, moi, j'ai les souvenirs de séquences cultes, mais en fait, c'est le jeu qui est constitué.
Exactement.
De séquences cultes, et t'enchaînes d'un moment culte à un autre, et en fait, tout le jeu est constitué de ces moments incroyables, en fait, quoi.
Donc, n'hésitez pas à nous dire, il sort dans 15 jours, ou enfin, dans quelques jours, le 24 mars. La semaine prochaine. Nous dire ce que vous en avez pensé, quand vous l'aurez essayé, tout ça. On vous encourage à vous y essayer, parce que c'est, un coup de cœur.
Et c'est quoi la suite aussi? C'est vrai qu'on se marre en disant, est-ce qu'ils vont partir sur RE5, qui est beaucoup plus décrié, ou est-ce qu'ils vont refaire un remake du premier Resident Evil en mode, justement, caméra TPS?
Moi, je pense qu'ils vont faire RE1, mais avec toutes les options, avec tous les paradigmes. C'est-à-dire qu'ils vont refaire RE1 avec un mode FPS façon RE7 et 8, RE1 en mode TPS façon justement RE4, parce qu'ils ont la capacité de le faire aujourd'hui. Et troisième paradigme, VR. On n'a pas parlé de la réalité virtuelle, mais aujourd'hui avec RE8, on voit que FPS, c'est possible. TPS façon RE4, c'est possible. VR, c'est possible. Donc, est-ce qu'ils vont pas faire le RE1, Resident Evil 1 total, après on arrête? C'est-à-dire que il y aura du FPS, TPS, VR, et puis...
Ça sera du boulot, quand même.
Ça sera grave de boulot, mais petit 10 balles sur le RE1 complet. Mais bon, si j'avais vraiment, moi, en tout cas, un désir perso, c'est fait Code Veronica, s'il vous plaît.
Tellement, tellement. Ça n'arrivera
toi,
pas.
Toi, ça serait quoi, toi?
Bah, Code Veronica aussi.
Code Veronica aussi.
Ouais.
Voilà pour RE4 Remake. Jeu coup de cœur. Est-ce qu'il sera dans les GOTY?
Sera-t-il
nommé? Je pense que oui, et j'espère que oui. Avant de passer à ta chronique et de parler encore du Japon, et je crois que RE4 fait partie de ta chronique dans le sens où il va donner une bonne impulsion à ce jeu vidéo japonais, c'est l'heure de l'interlude top 3 cette semaine qui va s'intéresser aux clichés du jeu vidéo. Hein. Je pense que Resident Evil, sa saga en elle-même, charrie avec elle quelques clichés. Mm-hmm. Je crois que je vais en parler au moins une fois. Donc, est-ce que tu as besoin d'expliquer qu'est-ce qu'est un cliché du jeu vidéo?
Moi, non, ça va. Non, ça parle, ça tombe sous le sens.
Ça tombe sous le sens.
C'est marrant, moi j'ai pris que des trucs qui, des clichés qui m'énervent en fait.
Mais tu vois que c'est important de préciser. Est-ce que les clichés sont énervants ou pas? Est-ce qu'ils sont révélateurs d'une certaine vérité ou pas? On va voir avec ton top 3. C'est toi qui commences. Quel est ton top 3?
Alors un cliché qu'on retrouve justement souvent dans beaucoup de jeux de Capcom, hein, c'est à la fin du jeu, tu retrouves le best-of des boss que tu as déjà affronté dans l'aventure.
Le combo.
Ça branle ouf. Alors on en a dans Capcom, j'ai dit, dans beaucoup de jeux. Je crois dans Beautiful Joe aussi, on avait ça. Même dans Wind Waker, hein, je crois qu'ils avaient pris ce système-là.
Capcom aime bien.
Ouais, ça rend ouf. Alors c'est vrai que c'est un feeling arcade, et puis tu peux un peu juger justement les progrès que t'as fait par rapport à la première fois où t'as affronté ce boss-là. Et ça, c'est vraiment un truc qui me rend ouf, et j'assimile ça à de la flemme, alors que bon, peut-être que c'est aussi autre chose.
Hein, exactement ce que j'allais dire. Aujourd'hui, c'est assimilé à de la facilité, c'est-à-dire qu'ils vont, en termes de développement, ils vont dire on va reprendre tous les boss, alors qu'à l'époque, je pense pas que c'était de la flemme, ou en tout cas peut-être un peu, mais c'était juste un jalon final. C'est-à-dire que tu testais le joueur en disant, est-ce que tu as rassemblé toutes les capacités que le jeu t'a proposé, et tu vas devoir
maintenant... J'ai déjà tué ces mecs, c'est bon, j'avais prouvé déjà.
Ouais, mais si tu grattes vraiment à l'époque, le côté arcade, le côté il te reste qu'une vie, t'as payé pour ça, t'as réussi à faire tout le jeu, à la fin, hop, c'est le contrôle, c'est le brevet des collèges.
Pur héritage arcade, ouais, mais je crois que DMC aussi en était farci de ces trucs.
Ouais, c'est vrai, très beau cliché, il énerve en tout cas, mais c'est du Capcom qu'on a, tressé tous les lauriers qu'on pouvait sur RE4 Remake, là qui va en prendre encore un avec mon troisième, et là je crois que c'est au-delà de Capcom, c'est même un cliché de Resident Evil, c'est le niveau final, avec un chrono et avec une voix robotique, et le blackboard, il te reste 2 minutes pour finir ton niveau.
Ah oui, ça aussi, on y a droit à chaque fois.
Ça arrive souvent, mais le blackboard, c'est que dans un seul, je crois.
C'est dans le 2, je crois.
Il m'a traumatisé celui-là, et il me fait beaucoup rire, parce que...
Ce qui est marrant, c'est que ce chrono, en plus, il est 4 fois trop timé, donc t'as le temps de faire 15 fois le truc, en fait.
Mais... il fonctionne, parce que moi, il me stresse.
Petit coup de stress.
Tout le temps. Ouais. Il me stresse. Voilà. Mon troisième, c'était la voix robotique et le chrono final. Quel est ton top 2?
Alors, mon second, c'est les combats en cinématique, les cinématiques qui viennent conclure un combat, mais qui sont complètement décorrélées du combat.
Ah, okay.
C'est-à-dire que t'as un boss, tu vas lui mettre la misère, tu le butes, et là, la cinématique, en fait, le boss, il a rien, et c'est lui qui te met la misère, en fait.
Ah.
Et là, je me sens un peu dépossédé de ma victoire, tu vois, donc je trouve ça pas cool, quoi.
Ok. Et est-ce que dans ces cinématiques, il y a des QTE ou pas? Est-ce que ça serait un cliché de plus? Je sais pas. Mon top 2, alors là, on reste encore dans, on va dire, les niveaux, ce qui se passe dans les niveaux, c'est que dans un jeu, il y a souvent un niveau sous l'eau. Et donc, c'est un petit peu moins vrai en ce moment.
C'est vrai.
Mais fut un temps, il y avait systématiquement un niveau aquatique, un niveau même, or plus qu'aquatique, c'était un niveau sous-marin, un niveau qui était souvent pénible.
Souvent éclaté.
J'espère, j'en sais rien, mais que c'était un niveau qui était compliqué à développer, compliqué à imaginer, à conceptualiser.
Ah, ça te change la physique des mouvements, ça te change l'inertie du perso, donc ils avaient, pour un niveau, je pense qu'ils n'avaient pas le temps d'y consacrer l'énergie nécessaire, donc fatalement, on se trouvait avec des niveaux nuls, quoi.
Ouais, et donc c'était un défi, peut-être, de rendre ces niveaux aquatiques et sous-marins intéressants. Alors, j'en ai pas de tête, est-ce qu'il y en a des niveaux aquatiques et sous-marins intéressants?
Alors, j'en ai un qui avait justement, c'est du jeu Capcom et qui avait bien fait le taf, c'était Devil May Cry 1, je crois, où ça se jouait en vue subjective et qui était hyper jouable.
T'avais l'arme exprès.
T'avais un harpon et en fait le perso était super facile à contrôler, donc chapeau, ils avaient réussi là-dessus.
C'est vrai.
À gérer le truc.
Parce que même les Metal Gear sont tombés avec MGS2, t'avais ce petit niveau.
Bon, qui était pas très très long, mais.
Oui, mais dans ce niveau, c'était aquatique et en plus tu devais
protéger quelqu'un.
Protéger
donc,
quelqu'un.
Deux clichés en un. Coco, c'est... il s'est dit, on met tout maintenant là comme ça.
Est-ce que c'est pas méta? Est-ce que c'est pas volontaire? Allez, go pour ton top 1, fais-nous plaisir là, le plus gros cliché.
Alors
là,
celui qui m'énerve le plus, c'est quand tu commences un jeu, une suite, hein, c'est que tu perds tous les pouvoirs que t'as accumulés à la partie d'avant. Alors, c'était devenu, enfin, c'était un gimmick d'un Metroid, par exemple.
C'est une Metroidade.
On te fait jouer le début avec plein de pouvoirs et qu'on te les enlève pour te dire, t'as envie de récupérer, mais vas-y, faut. Mais tu vois, par exemple, dans les grandes sagas, les God of War et tout. Alors là aussi, ça s'est un petit peu calmé, hein. Tu vois, God of War Ragnarok, je crois que t'as quand même beaucoup de coups et d'armes que t'avais dans le premier épisode. Mais voilà, tu commences quand même avec peu de choses et ça va s'étoffer. Alors, je comprends évidemment la logique derrière.
Il faut justifier le fait qu'il y a un diptyque de jeu et à la fin du premier, t'es surpuissant. Et il faut quand même au début du second te minorer un peu ta puissance.
Mais ça m'énerve.
Mais ça, je comprends.
Je pense qu'il y a moyen de trouver quelque chose justement pour montrer t'es ultra puissant, mais qu'il va falloir encore progresser.
Ouais, peut-être faire comme Bayonetta, le Climax Infinite, qu'il faut toujours monter plus fort, plus haut pour pas avoir cette perte de puissance. Ouais, c'est vrai que tout ça est né avec Metroid. Alors moi, mon numéro 1, c'est pas tant les jeux, c'est pas tant ce qui se passe dans le jeu, c'est plus quelque chose qui se passe dans l'industrie. Je trouve qu'il y a un cliché, c'est de dire que Nintendo est un constructeur à part. Alors, moi je suis ok.
C'est-à-dire pour les enfants.
Non. Ouais, mais écoute, ça fait partie. Exactement, donc moi, je dis que, enfin, j'entends souvent, et je crois que c'est un cliché qui est très répandu, de dire que Nintendo est un constructeur à part, pour dire que dans leur philosophie, oui, c'est un constructeur à part, mais dans ce qui concerne le marché du jeu vidéo, mais absolument pas. C'est-à-dire que Nintendo, Microsoft et Sony sont dans le même marché, sont des concurrents directs, et sont confrontés aux mêmes difficultés. Ils ont, à la fin, un bilan financier. Quand tu compares le chiffre d'affaires et les bénéfices des trois constructeurs, ils sont comparer les trois
oui.
sur le
en
même
de part de marché
sur le même niveau. Après voilà, philosophiquement, Nintendo, ils sont pas à la course à la puissance. Ils ont des jeux entre guillemets, je le pense pas, mais plus enfantins, etc., etc. Tu vois ce que je veux dire?
Oui. Non, je suis d'accord là-dessus. Hein. C'est vrai que souvent, en plus là, avec les guéguerres, rachat d'Activision Blizzard et tout, il y a toujours cette opposition Xbox PlayStation. Mais quand un joueur qui a 300 ou 500 balles, s'il veut une Switch, il achètera pas une PS5 ou une Xbox avec. Donc fatalement, ça rentre en ligne de compte et ça fait partie d'une concurrence directe, en fait. Ouais. Quoi.
Ce qui serait intéressant, peut-être, à terme, c'est de réfléchir à, est-ce que c'est pas Sony et Microsoft qui, finalement, vont commencer à se singulariser eux-mêmes pour se différencier de Nintendo. Nintendo qui est finalement dans un héritage complet de l'histoire du jeu vidéo, et qui est donc peut-être le constructeur 101. Donc s'il y en a bien un qui est pas à part, c'est Nintendo.
C'est vrai.
Donc voilà pour ce top 3 des clichés. N'hésitez pas à nous donner votre top 3 des vos clichés du jeu vidéo qui vous énervent ou qui vous font plaisir. N'hésitez pas à nous donner des idées de top 3. On en reçoit pas mal. On va commencer à en donner des vôtres. C'est vrai qu'on a une liste de top 3. On peut faire sur tout et n'importe quoi. Donc Nico, c'est à toi. On continue sur le Japon et un Japon qui va bien.
Ouais, c'est vrai que c'était l'occasion avec ce RE4 remake dont on vient de tresser les lauriers. Et donc c'est l'occasion de mettre en avant la belle santé du jeu vidéo japonais en cette année 2023. Et vous allez voir, il y a vraiment du lourd qui est sorti. On s'en est peut-être pas forcément rendu compte. Donc petit retour en arrière pour commencer. On se souvient tous de la génération PS3 360 qui a marqué un vrai coup d'arrêt pour le jeu japonais avec vraiment des grosses difficultés en termes de dev. On a vu que le passage à la HD, ça les a complètement séchés, en fait. Ils n'arrivaient plus à tenir le rythme. Et c'est à cette époque qu'on a vraiment le jeu occidental, là je parle vraiment plus sur console, qui a pris vraiment le lead, donc avec du BioShock, avec du Dead Space et tout, où artistiquement, techniquement, et même en termes de qualité globale, c'était eux les nouveaux patrons. Quoi.
C'est clair.
Avec le temps, sur la génération PS4, Xbox One, on a vu qu'il y a eu de l'apprentissage, il y a eu une remise à niveau. On voit que par exemple maintenant, les Japonais arrivent à utiliser le moteur Unreal Engine et de manière vraiment efficace, plus comme à l'époque où c'était toujours les jeux qui avaient un peu la même gueule.
On l'a évoqué quelques fois dans les Red Alert, c'est vrai que quand les Japonais décident d'arrêter d'utiliser des moteurs propriétaires, parce que c'est quelque chose qui avait l'air de leur faire plaisir, et qui justement, ils bénéficient des moteurs qui ont un savoir commun, où tout le monde va un petit peu travailler à son amélioration, ils arrivent à faire des trucs de ouf.
Carrément. Et donc aujourd'hui, ben finalement, on a un retour du jeu vidéo japonais en pleine forme. Alors, on n'atteint peut-être pas encore les valeurs de production des plus gros AAA occidentaux. Mm-hmm. Peut-être sauf Capcom, hein, qui arrive vraiment, je trouve, à tirer son épingle du jeu là-dessus.
Ouais, c'est vrai.
Mais on a quand même des super jeux, et c'est ça qui est quand même le plus important. Rien qu'en cette année 2023, elle a été très 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 chargée en jeux japonais. On a par exemple Hi-Fi Rush, hein, qui a tout vraiment le coup de cœur de pas mal de gens.
Alors, belle surprise.
On l'a pas traité dans Red Alert parce qu'on n'a pas eu le temps de le faire tous les deux. C'est vrai que c'est l'inconvénient des jeux un peu shadow droppés. Mais voilà, c'est un jeu qui mélange donc beat'em up et jeu musical. Alors, c'est déjà le GOTY dans le cœur de Ken, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais vraiment, je trouve que c'est le jeu qui a le profil parfait du coup de cœur de l'année pour un petit peu tous ceux qui ont pu s'y essayer. Alors certes, le réalisateur John Johannes n'est pas japonais.
Est-ce vraiment un jeu japonais ?
Mais c'est un jeu qui est développé par l'équipe japonaise de Tango Gameworks. Donc voilà, et je trouve que ça se voit parce que le jeu, bah, il bouge bien, il est technique, il est ultra dynamique. Donc il n'y a pas de surprise sur son ascendance. Mmh. C'est vraiment un jeu qui a marqué l'année.
Studio dont la figure de proue Shinji Mikami, qui est voilà en plein dans notre Red Alert du jour, s'est en allé.
C'est vrai. Et donc on sera curieux de voir comment le studio va évoluer. Est-ce qu'il va garder cette identité japonaise ou pas ? À voir. Tu nous en as parlé dans un Red Alert précédent, mais 2023, c'est aussi Forspoken, hein, qui est peut-être la grosse déception de l'année, du moins pour le moment.
Pour le moment.
Donc c'était, voilà, ça devait être le gros jeu monde ouvert à l'occidental de Square Enix, donc développé par l'équipe de FF15. Et on voit que c'est finalement la déception qui l'a emporté. C'était une des grosses attentes de cette année 2023, mais ça a même marqué la mort du Luminous Studio. Donc Capcom rentre un peu dans le rang, et là-dessus, Forspoken a déçu, quoi. Bientôt au mois de juin, on va voir le retour de Street Fighter 6, le retour de la baston. On sait qu'on a aussi Tekken qui est dans les tuyaux, Tekken 8, c'est ça ?
C'est le 8.
Donc la baston à la japonaise, hein, comme on l'aime bien. Donc après un Street 5 en demi-teinte, c'est vraiment Capcom tente de revenir un peu aux sources et nous refaire le coup de Street 4. Oui. À croire qu'il y a que les Street pairs, hein, qui réussissent à plaire aux joueurs là-dessus. Mais voilà, c'est quand même un événement, je trouve, un nouveau Street Fighter qui sort, c'est pas tous les jours, et ça va arriver aussi cette année.
Carrément.
Et dernier point remarquable, on a quand même une triplette entre Zelda, Tears of the Kingdom, FF16 et RE4 Remake, qui sont sortis cette année. Donc le premier RE4 Remake, on vient d'en parler, donc je vais pas en dire plus. Mais quand on a la même année un nouveau Zelda et un nouveau FF, c'est forcément une grande année quand même. Là-dessus, on peut pas dire autre chose.
Ouais. Les années marquantes, c'est les années où t'as un nouvel épisode des grandes sagas. Ça, on s'en souvient.
Et je pense que ces trois jeux, je prends peu de risques en disant qu'ils seront d'une manière ou d'une autre dans la course au GOTY en fin d'année. On prend pas trop de risques là-dessus, quoi. Ce qui est dingue, en fait, c'est à quel point on va constater que ces sorties japonaises, se sont finalement pas mal accumulées sur le seul premier semestre 2023. Avec une avalanche de titres. Alors là, je vais citer quelques trucs. Vous allez voir, c'est quand même assez ouf ce qui est sorti. Mmh. Donc, on a eu du Wild Arts, on a eu du Wulong Fallen Dynasty, Octopath Traveler 2 et Fire Emblem Engage. Tu nous as parlé des deux épisodes. Like a Dragon Ishin, Bayonetta Origins qui vient d'arriver, Theater Rhythm Final Fantasy, One Piece Odyssey. Si on est même un peu gourmand, on peut rajouter quelques portages et remasters. On a eu droit à Kirby's Return to Dreamland Deluxe. Tales of Symphonia Remastered, Ghost Trick aussi qui revient, Project 04, hein, l'épisode maudit de la Wii qui arrive pour la première fois en Occident, et Baton Kaitos 1 et 2, même si là je triche un peu parce que ça sera été, donc on sait pas si ça sera premier semestre ou deuxième semestre. Et quand on fait cette liste-là, déjà on se dit waouh, il y a quand même énormément de jeux. Est-ce que tu t'étais rendu compte, toi, qu'il y avait eu autant de jeux japonais qui étaient sortis?
Avant que tu me donnes le titre de ta chronique, j'avais pas spécialement fait gaffe, et quand tu me donnes le listing, ce qui est impressionnant, c'est la variété, en fait. C'est ça qui est impressionnant.
Parce que il y a de la qualité, il y a de la variété, et surtout ce qu'on aime bien dans les productions japonaises, c'est que c'est de l'originalité, quoi. Ouais. C'est des jeux qu'on retrouvera pas ailleurs, avec des gameplays dédiés, des gameplays super optimisés et pointus. Donc là, on a quand même une belle liste. Alors, la liste que j'ai citée, c'est pas forcément des jeux dont on va forcément se souvenir et qui vont marquer l'année. Mais voilà, si on aime les jeux japonais, il y avait vraiment de quoi faire, et même bien plus que ce qu'un joueur moyen peut s'essayer, quoi.
Et ce que j'aime bien, moi, c'est que ça conjugue présent et futur, c'est-à-dire des productions qui vont vers l'avant, mais qui prennent aussi en considération le passé. Donc il y a des remakes, donc il y a des remasters, mais il n'y a pas que ça non plus, tu vois. Il n'y a pas une image d'une seule nuance. Il y a vraiment un jeu japonais qui regarde en arrière, qui regarde en avant, qui joue du patrimoine, qui joue sur la modernité. On l'a vu.
C'est la vitalité.
Non, ouais, c'est ça, c'est la vitalité, ouais.
Alors, beaucoup de jeux japonais, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de jeux occidentaux. Hein. C'est vrai qu'en ce premier semestre, on a quand même eu Dead Space Remake, du Hogwarts Legacy, a Star Wars Jedi Survivor ou Diablo 4 qui vont arriver. Donc, il y a quand même eu pas mal de choses. Mais ce qui est amusant, c'est quand même, on constate, hein, et ça fait quelques années déjà que la tendance est dessinée, et je trouve que c'est vraiment marqué cette année, c'est que dans les sorties, si on fait le décompte des sorties, on voit vraiment qu'on a une année qui va être coupée en deux. avec ben, les Japonais qui ont pris un peu leur quartier dans le premier semestre de l'année, et les très très grosses productions occidentales qui ont tendance évidemment à se mettre plutôt en fin d'année, alors la période de Noël évidemment, donc entre septembre et novembre. Et là, on va voir les AAA occidentaux qui vont venir, quoi. Donc, on a des grosses cartouches même comme Starfield et Suicide Squad qui étaient prévues au premier semestre, mais qui ont décalé au deuxième semestre. Et ben, pourquoi? Ben, tout simplement parce que, il y a par exemple la fin de l'année fiscale au Japon se fait majoritairement fin mars. Donc, pour eux, c'est logique d'avoir leurs grosses cartouches à ce moment-là, donc dans le premier semestre.
Oui, voilà. En gros, la logique, c'est si tu veux gonfler ton bilan, avant la clôture en mars, ben là tu vas balancer toutes tes grosses cartouches, comme ça ben tu fais un gros bilan, ça fait plaisir à tout le monde, aux actionnaires. Et si au contraire t'as fait une année de ouf, tu te dis ben, est-ce que je vais pas décaler après mars, comme ça ben je vais gonfler le bilan suivant.
Exactement. Et il y a aussi l'autre raison, ben je trouve, hein, c'est que ces productions japonaises, même si elles sont de qualité et tout, il y a quand même une petite difficulté d'exister en fin d'année dans les linéaires face aux très très grosses productions occidentales,
ouais.
Avec ce que ça implique en termes de spectaculaire, en termes de débauche technologique, en termes de marketing aussi. On voit que là-dessus, ils sont pas non plus forcément revenus complètement à égalité là-dessus, quoi.
Oui.
La seule exception notable, hein, c'est comme d'hab, en fin d'année, t'as droit à ta licence Pokémon, lui, qui est tellement puissante, en fait, mais que les devs, ils s'en fichent de se confronter au cas d'or à millions de dollars. Ça sera eux, les patrons, finalement.
Je pense que c'est eux, les autres, qui ont peur de se confronter à Pokémon.
Et donc, voilà, on a une très belle année du jeu vidéo en 2023, le jeu vidéo japonais en particulier. Et c'est cool, parce que pour qu'une année de jeu vidéo soit belle, il faut qu'il y ait du jeu japonais là-dedans. Ça fait partie de l'historique là-dessus, quoi. Et c'est vrai qu'après ce très gros premier semestre 2013, on a un peu une effluve qui nous rappelle 2017, hein, cette année aussi ultra culte du jeu vidéo. Et là aussi, on avait eu droit à énormément de gros jeux japonais. On avait vu du Breath of the Wild, évidemment, du Nier Automata, du Super Mario Odyssey, du Splatoon 2, du Resident Evil 7. On avait même Dragon Quest 11 et Persona qui est arrivé en Europe. Mais bon, là aussi, encore une fois, on avait eu du jeu occidental qui tâche, avec du Horizon, du Assassin's Creed Origins, du Prey ou du Hollow Knight. Donc 2023, ça part sur les chapeaux de roue et c'est un bon présage pour le futur.
Ouais. Et 2017, on remarque qu'il y a les mêmes caractéristiques que 2023, c'est-à-dire qu'un jeu vidéo qui est panaché, qui va faire de la licence, c'est-à-dire de l'adaptation de grandes licences, du remake, un nouveau Zelda, comme si Zelda était un jalon important. Tu vois, il faut qu'à chaque Zelda, ça soit une année de ouf. Il y a, je trouve, tu as raison, totalement des similarités entre 2023 et 2017. C'est tout ce que je souhaite à 2023, moi, qu'elles soient aussi bonnes.
C'est vrai qu'on a ces années un peu cultes, hein, du jeu vidéo. On parle souvent de 92, 98. 2017, je pense que maintenant, avec le recul, on peut se dire que ça en fait partie.
Clairement.
Et 2023, bah, peut-être qu'on pourra faire le bilan en fin d'année, se dire que c'est OK. Ça fait partie des grandes années du jeu vidéo, quoi.
C'est marrant, sur le premier semestre que tu as évoqué, il y a vraiment, et ça de tout temps, ce bouchon en mars, c'est-à-dire vraiment tout le monde, tous les éditeurs et développeurs japonais qui vont charger un petit peu mars, comme on l'a expliqué pour le bilan. Mais là, cette année, et je crois pour la première fois ou l'une des premières fois, le second trimestre qui se finit en juin, lui,
il est
bourré aussi. Ce qui était complètement différent avant, où aux alentours de l'E3, tout le monde sortait. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de sortie en juin. En mai-juin, c'était ultra vide.
C'était même souvent les jeux un peu louches, tu vois, qui sortaient, qui profitaient de l'E3 pour sortir en catimini.
Est-ce qu'il y a une explication vis-à-vis de la disparition de l'E3? Là, on a eu des confirmations du fait que Nintendo, Sony, Microsoft... Est-ce que, tu vois, il peut y avoir une corrélation? Mais j'ai l'impression que, voilà, il y a maintenant deux trimestres très marqués par le jeu vidéo japonais, tu vois, mars, mai-juin. Tu as entièrement raison, c'est vrai que la fin d'année, c'est souvent, voilà, les gros branle-bas de combat, triple A, occidentaux. C'est vrai que j'ai vraiment l'impression qu'ils ont du mal, comme tu l'avais souligné, à déployer un arsenal marketing qui pourrait faire face à ça.
Ouais. Alors, juste pour le deuxième trimestre, je sais pas s'il y a un effet E3, pas E3, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un côté, tu vois, jurisprudence cyberpunk où, typiquement, ça aurait été des jeux qui auraient dû sortir au premier trimestre, mais l'éditeur maintenant rechigne plus à accorder quelques mois supplémentaires pour pouvoir le peaufiner.
D'accord.
Ça peut être une piste, je sais pas si c'est la réalité en tout cas.
En tout cas, il y a des jeux qui ont glissé en 2023 déjà, de mai-juin à fin d'année, évidemment pour profiter de Noël, hein, qui est la plus grande période de l'année au niveau des ventes, mais aussi pour éviter un certain Zelda.
C'est vrai que le mois de mai-juin, ça n'a aucun sens. Quoi. Zelda, FF16, Diablo 4, Street Fighter 6, enfin... N'en jetez plus, quoi.
En revanche, j'allais dire Microsoft, mais Blizzard, pour l'instant, on va dire sans Microsoft, eux, il, je pense, bénéficie d'un attrait autour du jeu vidéo très très fort en mai-juin, et ils n'ont pas peur de se confronter à FF16 et à Zelda Breath of the Wild, Tears of the Kingdom, parce que c'est pas les mêmes publics, c'est pas du tout pareil. Donc quand tu as un jeu vidéo qui est comme ça ultra vivant, tout le monde parle du jeu vidéo, que ça soit dans les médias généralistes ou spécialisés, et que toi tu es dans ce torrent en fait d'actualité, mais que tu es pas confronté au même public que les gros cadors FF16 et Zelda, t'es trop content. Donc eux, ils sont... en fait, il y a un tube, une grosse vague qui est en train d'arriver sur mai-juin. Là, ils sont en train de la surfer avec les poteaux Zelda et FF16.
Ouais, et puis c'est vrai que nous, de notre point de vue, on pense plus à Zelda et FF, mais d'un point de vue d'un joueur PC, Diablo, c'est Zelda ou FF. Donc, ils savent, Blizzard, ils y vont tranquille en disant que ça sera ultra attendu et que ça sera un carton, quoi qu'il arrive, quoi.
Donc, un jeu japonais qui va bien et une émission, un raid alert plein de positivité, parce qu'on a parlé d'un jeu excellent, d'un jeu japonais excellent et qui va nous apporter des jeux excellents. Sauf de plaisir, on était bien là.
Écoute, c'est positif, tout va bien dans le monde du jeu vidéo.
Tout va bien, on vous remercie vraiment pour votre fidélité. On vous voit mettre des coms, mettre des notes, mettre des pouces, ça nous fait super plaisir. Vous avez remarqué qu'on avait consommé tout le sopalin, parce que on est un podcast et en vidéo, il y a des éléments qui changent, donc vous le remarquez, ça nous fait super plaisir. Merci encore pour votre fidélité. On fait la bise à Ken, à Ludo et à Damien. Et il est l'heure, de te demander qu'est-ce qui va se passer dans Red Alert la semaine prochaine. Et je crois que c'est pas un Red Alert. Alors, on vous fait faux bon en ce moment, mais là, vous inquiétez pas, c'est que, mars, c'est le mois anniversaire de CERD, les 8 ans de CERD, et donc il y a une FAQ.
C'est ça, comme chaque année, pour le mois anniversaire, on fait une petite FAQ en live, et ça sera l'occasion de poser vos questions. Alors, sur Discord, sur les réseaux sociaux, on a fait des appels à questions, donc n'hésitez pas à aller poser les vôtres. Et on sera, toute l'équipe réunie, ici même dans la pièce, 5 personnes avec. Donc on sera sur YouTube en live. Ça sera, je sais plus, c'est quand, jeudi prochain.
C'est jeudi prochain dans l'après-midi. Ouais. 23.
Donc voilà, guettez les réseaux sociaux et tout si vous voulez être présent. Mais en tout cas, ça sera, on respecte la tradition.
Voilà. Et dans 15 jours, on vous donne déjà le programme. Ça sera un raid alert, mais un raid alert spécial. C'est la centième. La centième de raid alert dans laquelle, on va vous faire un grand making of, une heure de, on va parler de raid alert, comment ça se passe, comment on prépare les chroniques, comment ça se déroule, qui met le matos, Ken, comment ça se passe quand il vient, quand il est absent, c'est Damien, etc., etc. On va vous parler tout ça.
Coulisses alertes.
Les coulisses alertes. Si vous avez des questions sur comment se façonne un épisode de Red Alert, n'hésitez pas à nous les poser, on en profitera pour vous répondre. Et donc pour cet épisode, franchement, qui a fait super plaisir. Merci à tous et à la semaine prochaine.
Bye bye.